Julien Clerc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Nostalgie. Si nous vous recevons, c'est avec grand plaisir parce que, en plus, un livre passionnant vient de sortir. Il s'agit de votre vie, intitulé tout simplement Julien. Un livre paru chez Calman Levy par Sophie Delassin. Mm-hmm. Alors, on vous connaît secret, on vous connaît pudique. Mm. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette invitation et la possibilité d'éditer comme ça votre livre?
En fait, il y a deux choses. J'apprécie le travail de Sophie Delassin, qui est donc, je le rappelle, journaliste spécialisée dans la musique au Nouvel Observateur. Et j'ai toujours bien aimé le ton de ses articles, si vous voulez. Donc je me suis dit, finalement, ça ne sera rien d'autre qu'un long article. J'ai donné, on a vraiment fait des heures d'entretien, des heures d'interview. Elle a eu à sa disposition des documents, surtout, je vais dire, sur la première partie de vie, le divorce de mes parents, etc. Et après, elle a fait une espèce de, comment est-ce qu'on pourrait dire, une biographie autorisée, non autorisée. Enfin, elle l'a fait après toutes les heures d'interview et les documents que je lui ai trouvés, que moi-même d'ailleurs pour la plupart je découvrais, et après elle a fait son travail et moi j'ai pas cherché à relire, je n'ai plus mis mon grain de sel à partir du moment où elle a eu toutes mes réponses à toutes ces questions. Voilà à peu près l'esprit de la chose.
C'est vrai qu'elle a mené son enquête auprès de nombreuses personnes de votre entourage. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui filtraient par moment? Est-ce qu'on vous disait, tiens, j'ai eu...
Non, elle me disait toujours, ouais. j'ai vu un tel. Certaines personnes qu'elle avait vues, que je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille les interviewer. Enfin, elle a vraiment fait... Pour ne rien vous cacher, au départ, ça devait être plus ou moins un truc à quatre mains. Et moi, je ne me sentais pas de faire ça. Je ne me suis jamais senti d'écrire quoi que ce soit sur moi. Donc, je lui ai dit, écoutez, Sophie... Vous me posez toutes les questions que vous voulez, puis après, vous faites ce que vous avez à faire. Voilà.
Alors, vous n'avez pas regardé avant l'édition, mais vous avez ensuite lu, j'imagine. Non, vous n'avez pas lu.
Non, je n'ai pas lu non plus.
Pas
non, c'est pas que je m'en désintéresse du reste, mais je ne relis pas non plus. Ça, là, après, on rentre dans autre chose. On rentre dans le rapport à soi, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup de mal à me voir, à me regarder, à m'entendre, n'en parlons pas, et surtout à me regarder. Donc c'est pareil, j'ai essayé de faire ça le plus honnêtement possible, je vous dis, dans les réponses à ces questions, et après, non, je lis autre chose, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas le livre, j'espère qu'il fera plaisir aux gens qui l'achèteront.
Justement, vous parlez de votre caractère et de votre côté réservé, et qu'est-ce qui fait quand on est adolescent ou jeune adulte, et qu'on a ce caractère réservé, qu'on ait envie de se lancer comme ça à l'assaut du monde?
Parce que l'assaut du monde, comme vous dites, passe par un véhicule exceptionnel qui est la musique. Donc, la personne qui vit avec moi, qui est ma femme maintenant, me disait encore tout à l'heure, là, il y a trois quarts d'heure, elle qui est écrivain, qui n'a pas à se plaindre jusqu'à maintenant du sort que lui réserve le public, elle me dit, je crois que vous faites le plus beau métier du monde. On fait le plus beau métier du monde parce que, à la fois... Justement, quand on est quelqu'un d'assez réservé, on peut quand même le faire, parce que on est porté comme sur un tapis magique par la musique, vous comprenez? Et on a un rapport d'émotion avec le public qui n'a rien d'impudique, celui-là, étrangement. En fait, en gros, on peut faire ce métier en étant pudique. On peut aussi le faire en étant impudique. Je crois qu'il faut toujours se montrer tel qu'on est devant les gens. Je crois beaucoup dans la façon réelle dont le public perçoit les artistes. Le public voit les choses et sent les choses, même des choses inexplicables que le public sent toujours. Donc je crois qu'il faut se montrer tel qu'on est.
Et cet amour de la musique que vous avez, c'est aussi peut-être une façon de rendre de l'amour à vos parents qui vous ont fait découvrir, et d'une part, le jazz par votre mère ou la musique classique par votre
père. Par ma belle-mère, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir à la fois une enfance. J'ai eu la chance. J'ai cette enfance un peu déchirée. M'a laissé évidemment des fêlures, mais aussi c'était d'une très grande richesse émotionnelle, en fait. Et donc, dès le début, Ça a été une histoire de femme d'abord, ce qui est important, une histoire de mère, j'ai dit au pluriel. Mmh. Ma mère et ma belle-mère, que j'appelais maman aussi, qui m'a élevé littéralement, puisque j'avais été confié à la garde de mon père. Et dans ces deux foyers, grâce à ces femmes, il y avait de la musique. Et donc j'ai voyagé comme ça toute ma petite enfance et mon adolescence, bien sûr, entre deux maisons, la où il y avait pas la même musique, mais il y avait de la musique tout le temps.
Oui. Et puis, il y a dans les années 80, ce qui est évoqué dans le livre, votre passage et votre désir de retour au rock, à certaines musiques que vous aviez aimées.
Bien sûr. Mais, n'est-ce pas, moi je suis le produit, comme beaucoup d'artistes de ma génération, de deux choses. D'au moins deux choses. En tout cas, en ce qui concerne la musique populaire, la musique pop, je suis le produit évidemment des grands anciens français. Nous avons eu, les gens de ma génération ont eu une chance inouïe d'avoir comme exemple, sous les yeux et dans les oreilles, que de grands créateurs. Ça va d'Aznavour à Brel, en passant par Ferré, Barbara, Brassens et Beko, par exemple. Bon. Et puis, dans la musique anglo-saxonne, pareil. C'est-à-dire que ça allait, la musique anglo-saxonne, j'avais donc 16 ans quand c'était les Beatles et Bob Dylan, vraiment les débuts de, même si lui ne veut pas trop l'admettre, les débuts des Protest Singers, donc, et la musique soul américaine à travers Ray Charles et le blues. Donc ça n'était que, c'était incroyablement riche, c'était ça. Nos aînés, c'était ça qui nous montrait le chemin. Alors, ce qui fait que quand je me suis amusé après, pendant toute ma carrière, quand vous dites un retour au rock, c'est pas véritablement un retour au rock, mais c'est en fait d'avoir piqué dans toutes ces musiques que j'aimais et qui m'ont marqué. Et dans ce même sac, je mets la musique classique aussi. Mmh. Et c'est ce mélange-là qui a fait ma musique, si je puis dire, puisqu'il y a un côté tout à fait ludique pour moi à continuer de composer aujourd'hui encore. Ouais. Quand je suis encore inspiré, il se trouve que je le suis, à mon grand étonnement. Je ne pensais pas, je pensais qu'à un moment donné, ça deviendrait plus difficile, que je prendrais un peu plus de temps à composer les albums. Le prochain album, qui est déjà pratiquement écrit, me prouve le contraire. Voilà.
Et justement, vous parliez aussi de la musique classique. Vous avez fait cette tournée symphonique. Mmh. Je pense que pour vous, là, c'est un moment très important parce qu'on sent, là, quand vous étiez sur scène, toute l'émotion avec tous ces instruments.
En même temps, c'était très amusant à faire parce qu'il était hors de question. Moi qui vais beaucoup au concert classique, qui suis abonné aussi bien à Pleyel qu'au Théâtre des Champs-Élysées. Il était hors de question, en fait, de faire de la musique classique. J'ai même eu peur à un moment donné. Je me suis dit, j'espère que les journaux, il va pas leur passer dans l'idée de m'envoyer les journalistes qui traitent de la musique classique parce que ils vont être affreusement déçus et vont se sentir tout à fait trahis. Je crois que l'histoire, c'était surtout, et Philippe Huminski m'a beaucoup aimé et aidé là-dessus. Il était question de faire sonner un orchestre symphonique plutôt comme un orchestre pop, d'essayer de faire danser les gens avec un symphonique, en gros, mais en respectant la règle du jeu de l'orchestre symphonique, qui est pas d'instruments électriques, que des instruments en bois, et donc ça se situait dans la prise de son des basses, des violoncelles, et la façon de faire jouer les musiciens.
Oui, voilà. Tous les arrangements extrêmement étonnants pour des instruments de ce genre, et ça fonctionne, quoi.
Oui, ça fonctionnait. Je pense qu'au fur et à mesure que la tournée a avancé, quand on est arrivé vers l'approche des festivals, etc., quand les festivals approchaient, on a remis certaines chansons dedans. Autant au début, on était tout à fait on s'était beaucoup servi de ce que Jean-Claude Petit avait écrit à l'époque, dans les années 70. Autant quand nous avancions dans le répertoire, et qu'on arrivait aux années 80, on avait des chansons qui, à l'origine, étaient complètement synthétiques. Des trucs comme La fille au banilon ou Quand je joue, qui n'étaient qu'à base de synthétiseurs et de grosses rythmiques plutôt rock. Et là, on a réussi à adapter ça. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment amusant à faire. Oui. Aussi. Et je crois qu'on aurait continué encore des années. Je pense qu'on peut tout mettre en symphonique, en fait. C'est juste, on a acquis le savoir-faire.
C'est de la musique, quoi, tout simplement. Ouais. Et alors, là, j'ai envie d'entrer dans la tête de l'artiste. Quand vous êtes pour la première fois sur scène, devant un public, hein, je ne parle pas des répétitions, avec cet orchestre, est-ce qu'on ne se retrouve pas un petit peu spectateur de son propre spectacle avec le public, avec la, la musique, enfin...
Non, parce que, en fait, ça, c'est déjà bien en amont. Je ressens ça bien en amont, dès les premières répétitions. En fait, c'est là qu'on voit comment ça va coller, s'il va y avoir besoin de beaucoup de travail, ou si finalement on a bien, on avait préparé notre coup très en amont. Humansky m'avait montré chaque chanson avec ses synthés. Il avait fait des arrangements symphoniques, mais avec les synthés. Donc j'entendais à l'avance et je pouvais corriger bien en amont. Quand sont arrivées les répétitions, en fait, c'était presque joué, si vous voulez, en fait.
Et à contrario, ensuite, vous êtes parti avec la tournée pianistique.
Oui, alors là, on a appelé ça, comme le premier s'appelait symphonique, on a appelé ça pianistique. Bien que ça reste à refaire sans doute, mais j'ai... là, nous étions deux pianos et un percussionniste, et il y avait beaucoup de chansons quand même, avec, les pianos étaient midi, dans, donc dans lesquels nous rentrions des sons, visuellement c'était deux pianos, et un percu au son, on va dire que c'était... voilà. Bon.
Très bien. Alors le 11 novembre prochain, sur France 3, une émission vous sera consacrée, j'allais dire à moitié, puisque vous êtes deux artistes à l'honneur. Il s'agit de Destins croisés sur France 3, avec deux personnalités dont les destins sont croisés, comme le titre de l'émission l'indique, Laurent Gérard et vous-même. C'est encore l'exercice de la confidence.
Oui, alors je crois que heureusement qu'elle m'a eu, d'après ce que je sais, parce que je crois que Laurent finalement se confie beaucoup moins facilement que moi. Mais en tout cas, je suis très heureux que ça se fasse avec lui, parce que c'est un artiste dont j'admire véritablement le travail, que je le trouve au-dessus du lot véritablement. Il n'est pas seulement un bon imitateur, mais aussi un très bon chanteur. Et pour faire parfaitement ce métier-là, il faut en fait être un bon chanteur. Ce qu'il est.
Ouais, comme Thierry Leluron l'était d'ailleurs.
Comme Thierry Leluron l'était. Très bon chanteur et très relâché dans le chant. Pour avoir fait des nombres de duos avec lui, quand je fais les duos avec lui, je ne fais pas seulement que rire, mais j'écoute aussi. Et je trouve qu'il est assez étonnant même au niveau vocal. Voilà. Et sinon, vous avez raison. C'est des confidences faites avec Mireille Dumas. Faites à Mireille Dumas, j'ai envie de dire. Mais enfin, c'est une très bonne intervieweuse. Elle sait où elle va. Elle sait tirer des gens ce qu'elle a envie d'en tirer. J'arrive, si vous voulez, à un moment de ma vie où je peux répondre aux questions qu'on me pose. Mais je peux aussi dire ce que je n'osais pas faire au début, il y a longtemps maintenant. Hein. Mais c'était de dire non, en fait. Là, je suis suffisamment, on va dire, à l'aise avec la vie que j'ai menée pour dire des fois, écoutez ça, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà.
D'accord. Et vous avez dit quelques mots tout à l'heure sur votre prochain album qui est quasiment terminé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Non, en fait, c'est la composition qui est terminée. Ouais. Je pense que toutes les musiques sont presque finies. Il y a beaucoup de chansons avec Alex Baupin, dont je suis vraiment très heureux. De la collaboration avec lui. Il y a aussi deux chansons avec Le Forestier. Ça, c'est normal depuis quelques années. Et puis, j'attends encore un ou deux textes, mais je crois qu'on va pouvoir commencer à penser sérieusement, ce qui n'est d'ailleurs pas le moindre problème, c'est la production. Alors, avec qui je vais travailler pour la production. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, ça m'amuse que j'ai croisé Jean-Louis Aubert l'autre jour qui me tenait le même langage, c'est amusant.
Bon, vous allez peut-être travailler ensemble.
Il a son disque à faire lui aussi.
Bon, merci beaucoup Julien Clerc, et puis j'espère que vous reviendrez nous voir justement à l'occasion de la sortie de cet
album. Si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir.
Et bien, ce sera avec plaisir que nous vous recevrons. Merci beaucoup.
Merci.